Véroa Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 23 février 2022. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous, à la une de nos informations. Moscou promet une réponse forte, bien calculée et douloureuse, après les sanctions américaines à propos de l'Ukraine. Au Mali, l'armée annonce avoir neutralisé 19 terroristes et démantelé 15 de leurs bases dans les régions de Ségou, Mopti et Bandiagara. Au Tchad, 5 soldats ont été tués par des djihadistes présumés dans l'ouest du pays. Centrafrique, le chef de l'ONU réclame la libération immédiate de 4 légionnaires de l'armée française opérant pour la MINUSCA à Bangui. Et ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé aujourd'hui des garanties de sécurité pour son pays de la part de l'Occident et de Moscou au moment où l'Ukraine fait face à la menace d'une invasion russe. Le point avec Rosine Monezero.
L'Ukraine a besoin de garanties de sécurité claires et concrètes immédiatement, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse avec ses homologues polonais et lituaniens. Il a ajouté que la Russie devrait être parmi les pays donnant des garanties de sécurité claires. Il a rappelé avoir proposé à plusieurs reprises de rencontrer le président russe Vladimir Poutine pour désamorcer la crise. Moscou a reconnu lundi l'indépendance des deux territoires séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine et n'a pas exclu d'envoyer des forces sur place. Les États-Unis ont aussitôt annoncé une première tranche de sanctions économiques en avertissant que des mesures supplémentaires sont sur la table en cas d'escalade. L'ensemble du secteur bancaire russe pourrait être visé, a prévenu un responsable américain. Il y aura une riposte forte aux sanctions, pas forcément symétrique, mais bien calculée et douloureuse pour la partie américaine, a assuré Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères.
Un soldat ukrainien a été tué aujourd'hui par un bombardement des séparatistes pro-russes sur la ligne de front dans l'est de l'Ukraine, a annoncé l'armée dans un contexte de tensions croissantes. Les forces armées ukrainiennes n'ont pas précisé où l'attaque avait eu lieu, indiquant seulement dans un communiqué qu'un soldat avait succombé à ses blessures et qu'un autre avait été blessé pendant le bombardement. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé ce mercredi que le monde faisait face à un moment de péril, dénonçant à nouveau les violations commises par Moscou à l'égard de Kiev à l'ouverture d'une réunion de l'Assemblée générale des Nations unies. La décision de la Russie de reconnaître la soi-disant indépendance des régions de Donetsk et de Luhansk et la suite sont des violations de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine et sont incompatibles avec les principes de la Charte des Nations Unies, a-t-il martelé. Cela dit, les sanctions de l'Union européenne contre la Russie entrent en application dès ce mercredi. Ces sanctions visent d'une part des responsables politiques russes et d'autre part la capacité de Moscou à émettre ou échanger des obligations sur les marchés européens. Un sommet des 27 a été convoqué en urgence pour demain jeudi, a annoncé le Conseil européen. Et puis une nouvelle cyberattaque a visé aujourd'hui plusieurs sites officiels ukrainiens rendus inaccessibles, a annoncé un haut responsable gouvernemental. Le vice-premier ministre Mikhailo Fyodorov a indiqué que l'attaque avait commencé en fin d'après-midi, perturbant le fonctionnement des sites Internet de plusieurs banques et ministères du pays. L'origine de cette attaque n'a pas été spécifiée.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine, l'armée malienne a annoncé hier soir avoir neutralisé ou arrêté des terroristes lors d'opérations au cours des derniers jours dans les régions au nord-est de Bamako. Le point avec Nani Talani.
Dans un communiqué, l'état-major des forces armées maliennes indique que les opérations ont ciblé avec succès des terroristes dans les régions de Tombouctou, Ségou, Mopti et Bandiagara, où 19 terroristes ont été neutralisés. L'armée ajoute que 15 bases ont été démantelées, 34 motos récupérées et 15 autres détruites, ainsi que 37 téléphones saisis. Dans la région de Tombouctou, les efforts ont porté sur la précision du renseignement qui a conduit à l'arrestation de 8 terroristes. Le communiqué précise que ces opérations ont été réalisées avec la collaboration de la force européenne Takuba, toujours fonctionnelle. L'état-major avait annoncé avoir tué près de 60 terroristes dans le nord du Mali la semaine dernière. Samedi, l'armée malienne a déclaré que 8 soldats et 57 rebelles ont été tués lors d'affrontements dans la région nord d'Arkam, près de la frontière avec le Burkina Faso et le Niger.
Au Burkina Faso voisin, le parti du président renversé, Rokma Christian Kabore, demande à la junte de le libérer sans délai ni condition, un mois après son arrestation le 24 janvier à Ouagadougou. M. Kabore a été placé en résidence surveillée dans une villa du quartier de Ouagadougou où il avait reçu des dirigeants de son parti et les membres d'une délégation internationale venue à Ouagadougou peu après le putsch. La libération du président renversé a également été exigée par l'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO. En Guinée, un ex-ministre a été écroué et un autre placé sous contrôle judiciaire à Conakry pour détournement de deniers publics et corruption, a annoncé mardi soir la Cour de répression des infractions économiques et financières. L'ex-ministre du budget sous Alpha Condé, Ismaël Diubaté, a été placé sous mandat dans une prison de Conakry et l'ex-ministre d'État et conseiller spécial à la présidence pendant cette période, Thibou Kambara, placé sous contrôle judiciaire. L'ex-premier ministre bissau-guinéen Domingos Simoes Pereira a été interdit de quitter le pays en raison d'un contrôle judiciaire dans une enquête portant notamment sur une tentative de coup d'État cette année, a annoncé ce mercredi le parquet général de Bissau. M. Pereira, député et chef de l'ancien parti au pouvoir, le PAIGC, était l'adversaire du président Oumaro Sissoko Embalo au second tour de l'élection présidentielle de 2020, dont il conteste les résultats. Il a été chef de gouvernement de 2014 à 2015 sous le président José Mario Vaz. Au Tchad, 5 soldats ont été tués par des djihadistes dans l'ouest du pays. La région du lac Tchad est devenue, ces dernières années, un repère important des groupes Boko Haram et État islamique. Les détails avec Claire Morin-Gibou.
L'attaque a eu lieu hier dans la localité de Kaïga Kinjiria, à environ 150 km au nord de la capitale Djamena. Le sang versé par nos soldats ne sera pas vain. Nous gagnerons cette guerre contre les illuminés de Boko Haram, a écrit le général Mahamat Idriss Déby Itno sur sa page Facebook. Mahamat Déby ne livre aucune autre information sur les circonstances de cette attaque qui n'a pas encore été revendiquée. Les autorités tchadiennes appellent indistinctement Boko Haram et le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, une branche dissidente. Les deux groupes ont installé des bases sur la multitude d'îlots dans le bassin du lac Tchad. Les djihadistes conduisent régulièrement des attaques contre les militaires et les civils dans toute la zone. En août, au moins 26 soldats tchadiens ont été tués dans cette région, près de la frontière avec le Cameroun, le Niger et le Nigeria.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé la libération immédiate de 4 légionnaires de l'armée française opérant pour la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. Nathalie Barge.
Le chef de l'ONU a appelé le gouvernement centrafricain à respecter l'accord sur le statut des forces et à libérer sans condition et sans délai ses personnels de la MINUSCA. La Centrafrique a ouvert une enquête après la mise en détention des 4 légionnaires qui ont été arrêtés devant l'aéroport de Bangui alors qu'ils accompagnaient un général français de la MINUSCA. Le procureur de la République a indiqué qu'ils circulaient à bord d'un véhicule banalisé sans sigle de l'ONU et qu'ils sont de nationalité française, italienne, roumaine et bulgare. Cette arrestation est survenue au moment où les relations entre Paris et Bangui sont tendues. Hier, la France et les États-Unis ont accusé au Conseil de sécurité les paramilitaires de l'entreprise russe Wagner d'avoir tué des dizaines de civils en janvier. Des accusations rejetées par la Russie.
Une organisation congolaise de défense des droits de l'homme a publié aujourd'hui les résultats d'une enquête qui décrit le Congo comme un désert médical où l'offre de santé est jugée médiocre à cause de la pauvreté et des infrastructures. Le constat du Centre d'action pour le développement se base sur un travail mené pendant près d'une année dans les structures sanitaires du pays. Les secours à Madagascar commençaient ce mardi en fin d'après-midi à évaluer les dégâts après le passage du cyclone Mnati sur l'île déjà frappée par plusieurs tempêtes tropicales et un cyclone depuis un mois. Les intempéries ont jusqu'ici empêché les secours de mener des recherches approfondies dans les zones touchées, principalement dans l'océan, dans le sud-est et le sud de la grande île de l'océan Indien. Et puis, 3 migrants sont morts noyés, tandis que 47 autres ont pu être secourus après le naufrage de leur embarcation ce matin au large des côtes du Sahara occidental. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Écho avec Rosine Mounezero.
Le Soudan dénonce la décision unilatérale de l'Éthiopie de lancer la production d'électricité de son grand barrage de la Renaissance sur le Nil, se plaçant sur la même ligne que l'Égypte. Inquiet pour leur approvisionnement en eau, le Caire et Khartoum avaient demandé à Addis Abeba de stopper le remplissage du barrage. Mais l'Éthiopie refuse, estimant qu'il est essentiel pour apporter l'électricité à sa population. En Somalie, les programmes du FMI pourraient s'arrêter dans 3 mois en cas de nouveau retard dans les élections, a déclaré l'institution. Le FMI doit conclure mi-mai une évaluation de ses programmes, dont plusieurs points concernant des réformes à venir doivent être validés par le nouveau gouvernement. Une évaluation des programmes de soutien du FMI doit être terminée d'ici le 17 mai 2022. Autrement, les programmes se terminent automatiquement, a affirmé Laura Haramijo-Meyer, qui dirige la mission du FMI. Le système de supervision bancaire européen a appelé les banques européennes à renforcer leur vigilance face au risque de cyberattaques dans le cadre de l'escalade de la crise russo-ukrainienne, selon le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Les conséquences plus indirectes de cette crise sur l'inflation et la croissance feront l'objet d'une réunion du Conseil de gouverneurs en mars, a précisé le chef de la Banque de France. Cette réunion va se baser sur les faits, a-t-il ajouté, soulignant que la flexibilité devait être le mot d'ordre de leur politique.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Le Sénégal, vainqueur de la CAN et premier au classement FIFA, sur le continent a désormais un stade aux normes internationales. L'enceinte a été inaugurée hier dans la Liesse à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar. Un bijou, un joyau, plusieurs qualificatifs élogieux sont attribués au tout nouveau stade de Diamniadio qui porte le nom de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Tout un symbole pour l'actuel président Macky Sall.
Avec son aimable accord, j'ai décidé de donner le nom du stade du Sénégal à mon illustre prédécesseur, le président Abdoulaye Wade, en hommage à son parcours multidimensionnel d'intellectuel, de panafricaniste, d'homme politique et d'ancien président de la République du Sénégal.
Le stade Abdoulaye Wade, initialement baptisé Stade du Sénégal, a été officiellement inauguré en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président turc Recep Tayyip Erdogan, le Rwandais Paul Kagame ou encore le président du Libéria et ancien footballeur international George Weah. Des autorités du foot africain, Patrice Motsepe et le président de la FIFA, Gianni Infantino, figurent également parmi de nombreuses autres personnalités. Gianni Infantino, président de la FIFA.
Aujourd'hui, c'est un jour historique pour le Sénégal, pour l'Afrique, mais pour le monde entier, parce qu'on est là pour inaugurer un véritable bijou, un stade national incroyablement beau.
Ce nouveau stade a été construit en un an et demi par une société turque pour un coût de 156 milliards de francs CFA. Il est doté d'une centrale solaire d'une puissance de 2 mégawatts qui le rend quasi autonome en électricité. Dans les gradins, des milliers de Sénégalais ont pris d'assaut les gradins du tout nouveau stade de 50 000 places.
Je pense que cela motivera aussi toute l'Afrique entière parce que maintenant, on montre l'importance du football africain et motivera aussi d'autres pays à faire autant plus et pour représenter l'Afrique, les talents africains dans le monde entier.
Un match de gala opposé des légendes du football sénégalais à celles du football africain, comme le Camerounais Samuel Eto'o et l'Ivoirien Didier Drogba. La rencontre s'est soldée par un score nul de 0-0. Ici aux États-Unis, c'est une victoire pour le football féminin à l'issue d'un match qui a duré près de 3 ans. US Soccer, la Fédération américaine de football, s'est engagée à verser un salaire à un taux égal à partir de maintenant pour les équipes nationales féminines et masculines lors de tous les matchs amicaux et tournois. Cette annonce fait suite à un accord trouvé entre la Fédération et un groupe de joueuses Avant cet accord, les footballeurs de l'équipe nationale étaient mieux payés que leurs homologues féminines. L'accord doit mettre fin aux poursuites engagées et porte sur 24 millions de dollars.
Page de sport signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Après la controverse autour de son choix par les différentes confessions religieuses, Denis Kadima, le nouveau patron de la Commission nationale électorale indépendante en République démocratique du Congo, a rendu publique sa feuille de route pour les élections, dont la présidentielle prévue en décembre 2023. Au micro de Marius Munga, le nouveau patron de la CENI veut rassurer sur la transparence des prochaines élections.
Je pense que notre aspiration, c'est d'avoir des bonnes élections. Mais évidemment, dire qu'elles sont meilleures comparées avec les élections précédentes, ça serait un peu prétentieux parce que bon, ceux qui m'ont précédé ont travaillé dans un certain contexte et moi, je suis aussi dans un nouveau contexte. Mais tout compte fait, je pense que j'apporte une expérience comparative assez remarquable parce que, ayant été dans tous ces pays, il y a des bonnes pratiques électorales internationales que je peux apporter à la RDC pour que les élections soient beaucoup plus acceptables.
Sur une chaîne locale, vous avez affirmé ceci, je vous cite, la lenteur dans la mutualisation des opérations d'identification de la population, de recensement de la population et de l'habitat, ainsi que de l'enrôlement des électeurs et des natures a retardé le processus électoral déjà soumis aux contraintes de délai constitutionnel. Est-ce que cela veut dire qu'on va tomber dans un glissement des échéances électorales l'année prochaine?
En fait, je faisais une analyse des risques que nous courons, parce que dans toute gestion de projet, il faut toujours penser aux risques auxquels on est exposé. Et la mutualisation consiste à combiner les opérations que vous avez citées là, notamment le recensement de la population et l'inscription des électeurs.
Alors, le ministère des Finances affirme que le gouvernement vous a déjà octroyé plus de 37 millions de dollars pour le processus électoral, alors que vous affirmez ne rien avoir reçu. Qu'en est-il?
Oui, je pense que c'était un malentendu. Il est possible que le gouvernement ait débloqué 37 millions.
Possible ou vous savez que le gouvernement a débloqué?
Non, je n'ai pas compté, mais je dis que c'est possible dans ce sens qu'une bonne partie de cet argent, si pas la grosse partie, est allée payer les salaires, les frais de fonctionnement. Donc tout ça, ça fait partie de ce que le gouvernement a apporté. En fait, c'était une coïncidence assez bizarre.
Oui.
L'interview a eu lieu le 11
oui.
Et le transfert a été effectué le même 11, un peu plus tard dans la soirée.
Vous voulez dire que c'est une coïncidence ou c'était l'effet de ce que vous avez dit?
Je pense peut-être que c'était comme ils ont dit, c'était dans le pipeline.
Okay.
Mais moi, j'expliquais une situation en ce moment-là.
Alors, aux dernières élections, il y a eu des problèmes autour des opérations de dépouillement et de procédures de compilation. Et les cycles électoraux passés n'ont pas respecté la compilation bureau par bureau. Monsieur Kadima, quelles sont les garanties que vous pouvez donner au peuple congolais pour les prochaines élections?
Tout ce que je ferai, c'est publier bureau de vote, par bureau de vote.
Et qu'est-ce qui arriverait si vous ne le faites pas?
Bon, ça serait scandaleux.
Denis Kadima, le nouveau patron de la Commission nationale électorale indépendante en RDC.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Malgré l'accord signé à la Saint-Valentin entre le gouvernement burundais et la coalition des enseignants au Burundi, COSESONA, pour éviter une grève des professionnels de l'enseignement, le niveau des élèves du primaire et des écoles secondaires baisse année après année. Notre correspondant à Bujumbura s'est dirigé vers les acteurs de l'éducation pour comprendre les raisons qui poussent les élèves à ne plus rivaliser avec les meilleurs de la sous-région. Le reportage de Christophe Nkuruziza.
Il est 10 heures à l'école indépendante de Bujumbura. Les élèves et professeurs se parlent pendant la récréation. Jadis joyau prisé pour l'enseignement public et privé au Burundi, le niveau aujourd'hui des enfants du primaire et du secondaire n'est plus le même comparé aux années antérieures. Difficile pour les élèves de s'exprimer sans anicroche dans la langue de Molière. Pour le syndicaliste Machandari, beaucoup de raisons expliquent cette baisse de niveau des élèves du primaire, secondaire et partant des étudiants de l'université du Burundi.
Les Burundais, d'abord, ce sont des gens qui mettent au monde beaucoup d'enfants. On voudrait que tous les enfants en âge scolaire puissent fréquenter l'école. Ça cause un problème au niveau des effectifs en classe. Deuxièmement, les moyens financiers. Et le Burundi n'a pas les moyens suffisants pour pouvoir acheter le matériel qu'il faut pour chaque enfant. Donc, il faut surtout développer la coopération pour qu'il y ait quand même un appui, comme ça se faisait dans le temps. Troisièmement, il faut aussi encourager les enseignants. L'enseignant qui est démotivé, il fournit moins d'efforts. Autre chose est très importante en milieu du travail, il faut le dialogue.
Luc Naïmana, lui, est enseignant depuis de nombreuses années. Il reconnaît que le niveau des élèves et étudiants a sensiblement baissé depuis plusieurs années.
Je suis professeur pendant à peu près 22 ans et le niveau des élèves a diminué comparativement aux anciennes années parce qu'il y a le système qui a changé. On a changé le programme brusquement, sans préparer les éducateurs. Et aussi, on a changé le système. Donc, maintenant, la classe de 10e a été supprimée. Auparavant, le cycle faisait 4 ans. Maintenant, c'est 3 ans. Ça aussi, ça peut être un facteur. Ça, c'est au niveau général. À l'intérieur des pays où il y a des professeurs qui n'ont pas un niveau requis pour enseigner au niveau collège, ce sont les deux facteurs que je peux dire en gros.
Le directeur général au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, docteur André Nduimana, affirme que beaucoup de facteurs poussent à ce que les élèves aient un faible niveau.
Responsabilité de l'État de permettre de favoriser l'équité. On s'est dit qu'il faut élever le niveau de prestation des enseignants les plus faibles. On reconnaît que parmi les enseignants, il y a des enseignants très qualifiés qui ont de très belles prestations et qui ont de bonnes performances. Mais on reconnaît aussi que il y a des enseignants qui ne sont pas vraiment à la hauteur. Mais le souci du ministère, c'est de les élever plutôt pour élever par voie de séquence le niveau de compétence de nos enfants.
L'enseignement burundais est donc soumis à plusieurs difficultés pour que l'enseignement primaire, secondaire et académique revienne au même niveau que les années 70 et 80. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Afrique du Sud est le moteur d'un ambitieux projet, la conception du premier vaccin à ARN messager du continent africain. L'Organisation mondiale de la santé qui milite pour un accès équitable au vaccin est à l'origine de cette initiative. Une plateforme qui regroupe universités, chercheurs et compagnies pharmaceutiques a été établie pour développer et produire ces vaccins localement. Patricia Huon, notre correspondante en Afrique du Sud, nous en dit plus.
Dans des installations situées dans la ville du Cap, le bruit des travaux de construction résonne. Ici, un nouveau laboratoire, ailleurs, un immense entrepôt qui abritera des congélateurs à moins 80 degrés. En 6 mois, une réplique du vaccin américain Moderna a pu être développée. Karen Fenner, directrice technique au sein de la start-up de biotechnologie AfriGen, est enthousiaste.
So I think we can call it the first.
Nous pouvons dire qu'il s'agit de la première réplique d'un vaccin à ARN messager à très petite échelle. Nous avons utilisé des informations qui étaient dans le domaine public. Et ce que nous faisons avec ce vaccin de type Moderna, c'est prouver que nous avons établi une plateforme qui a la technologie de l'ARN messager.
Mais l'échantillon doit encore faire ses preuves. Les essais cliniques sur des humains n'auront pas lieu avant l'automne et ce vaccin ne pourra a priori pas être commercialisé car les firmes comme Moderna qui possèdent des brevets refusent de rendre leur vaccin libre de droit. Le professeur Tullio De Oliveira, spécialiste de la recherche génomique, explique que l'approche sud-africaine est celle d'un transfert de technologie.
Si nous développons un vaccin en Afrique du Sud à partir de zéro, nous ne ferons pas comme ces grosses sociétés qui refusent de partager leurs propriétés intellectuelles et n'enseignent rien à personne. L'idée, c'est que l'Afrique du Sud devienne un centre de formation pour que d'autres pays en développement puissent apprendre ce savoir-faire.
En parallèle, les scientifiques sud-africains travaillent à la conception d'un vaccin à ARN messager unique, dont ils détiendraient alors la propriété intellectuelle. Le professeur Patrick Arbuthnot dirige les recherches à l'université de Witwatersrand à Johannesburg.
African countries should have the resources to be able to make their own.
Les pays africains devraient avoir les capacités de produire leur propre vaccin à ARN messager sans dépendre de l'Europe, de l'Amérique du Nord ou de l'Asie pour les approvisionner. C'est devenu évident pendant la pandémie lorsqu'il y a eu une pénurie de vaccins dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Et l'autre point, c'est que la technologie de l'ARN messager devrait pouvoir s'appliquer pour d'autres maladies telles que la tuberculose, le paludisme, le VIH.
À terme, le vaccin élaboré en Afrique du Sud sera aussi fabriqué dans d'autres pays à revenus faibles ou intermédiaires. Une stratégie soutenue par l'OMS qui devrait permettre non seulement de contrer efficacement la pandémie de Covid-19, mais aussi par la suite de lutter contre d'autres maladies. À Johannesburg, Patricia Huon pour VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Le président Joe Biden a annoncé une première tranche de sanctions économiques contre la Russie. Washington a attaqué sur trois fronts: la dette souveraine, le financement des dépenses militaires à travers deux banques publiques et cinq proches de Vladimir Poutine qui voient leurs avoirs aux États-Unis gelés et sont désormais exclus du système financier américain. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint à Johannesburg, en Afrique du Sud, Marissa Scott-Torres, l'une des porte-parole du département d'État.
Beaucoup de Russes avaient un peu d'entreprises américaines, donc ces interdictions priveront le gouvernement russe d'un instrument clé grâce auquel il lève des capitaux pour financer ses priorités et augmenteront les coûts de financement futurs. C'est-à-dire, il refuse à la Russie l'accès aux principaux marchés et investisseurs américains.
Et si malgré tout, Poutine persiste et envahit l'Ukraine, que feront les Américains?
C'est quelque chose que le président américain a clairement indiqué, que la Russie prépare sa prochaine action et nous avons également préparé notre prochaine mesure. Donc, la Russie paiera un prix encore plus élevé si elle poursuit son agression, y compris des sanctions supplémentaires. Nous savons maintenant qu'il y a des mesures totalement défensives de notre part. Donc nous n'avons aucunement l'intention de combattre la Russie. Nous voulons cependant envoyer un message sans équivoque, à savoir que les États-Unis, avec nos alliés, défendront chaque centimètre carré de territoire de l'OTAN et respecteront les engagements que nous avons pris envers cette organisation.
En 2014, Vladimir Poutine a envahi la Crimée malgré les sanctions. Croyez-vous qu'il le fasse encore cette année face à l'Ukraine?
Vraiment, tout est possible avec Poutine. Nous cherchons, nous voulons une réponse diplomatique. Mais comme j'ai dit, nous n'avons aucunement l'intention de combattre la Russie. Nous voulons trouver une solution diplomatique.
Que ce soit la Russie, les Européens ou les Américains, tout le monde parle de privilégier la voie diplomatique. Mais de part et d'autre, il y a des mesures qui sont prises par Poutine, il y a des sanctions qui tombent. Est-ce que cette voie diplomatique-là n'est pas compromise?
Pour nous, ce qui est important, nous avons parlé avec nos alliés. La vice-présidente Harris a rencontré en personne des dirigeants au cours du week-end dernier lors de la conférence de Munich en Allemagne, dont avec aussi le président Zelensky. À chaque étape, nous avons montré que les États-Unis et nos alliés et partenaires travaillent à l'unisson. C'est ce quoi ils ne comptaient pas, M. Poutine. Nous sommes unis dans notre soutien à l'Ukraine. Nous sommes unis dans notre opposition à l'agression russe. Et nous sommes unis dans notre détermination à défendre notre alliance de l'OTAN. Et nous sommes unis dans notre compréhension de l'urgence et de la gravité de la menace que la Russie fait peser sur la paix et la stabilité mondiale.
Marissa Scott Torres, porte-parole du département d'État joint à Johannesburg en Afrique du Sud. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.